Est-ce que y a, Amandine, tu as un mot à dire sur l'étude SDF? On va te donner la, ce qui laissera le temps aussi à Eric de revenir sur scène, Eric Latimer. Donc, Amandine
Oui, alors
de l'ORS.
du coup, est-ce que la personne en fait pourrait me repréciser la question autour de
En
cette
fait,
étude?
c'était il y a eu une étude en 2008 sur l'étude SDF hein, qui a été menée par Jean Montovani et par
Oui.
l'ORS. Et est-ce que y a eu des liens avec le programme Chez Soi et un impact aussi de cette étude sur les liens avec le Chez Soi, si j'ai bien compris. Voilà, c'était un petit peu, est-ce
Alors,
que les résultats de l'étude sont cohérents et voilà.
du coup, en fait, bon, c'est pas une étude à laquelle j'ai participé directement, mais en tout cas, c'était une étude en fait qui s'intéressait plus à faire le bilan en fait d'expérimentation autour de l'habitat alternatif, donc autour de l'autodétermination en fait de groupes d'SDF qui étaient dans la normalisation de situations de squat. Et c'était autour des négociations en fait avec les politiques locaux. Et donc du coup, non, ça n'a pas vraiment de lien avec un chez-soi et autour de la médiation pair. Voilà.
Très bien. J'ouvre le, on va ouvrir le PowerPoint. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir répondu un peu au pied levé. Mais du coup, c'est les joies du direct, je dirais. Et puis, ça montre les connexions qu'il y a aussi sur ces différentes études et le fait qu'on avance sur ces questions de même si c'est lent, mais de participation et de médiateur. Parce que la participation est aussi une thématique qui est très fortement portée par la DIAL. Voilà, ça nous laisse le temps d'accueillir donc Eric Latimer qui va se présenter un peu plus précisément, mais qui, comme l'a dit Pascal Hoquier et Pauline Rinter, nous fait déjà la joie de venir jusqu'à Paris. Il était de passage à Marseille. C'était un des chercheurs principaux de l'étude canadienne. Alors, je ne sais pas si tu étais sur Montréal ou sur l'ensemble du. Mais tu vas
Oui,
peut-être le
pour le volet
préciser.
académique, oui,
Voilà.
c'est
On
ça.
avait déjà accueilli Eric Latimer dans notre présentation en 2014 au Sénat sur les résultats spécifiques de l'étude du chez soi at home. Et donc là, il va nous faire une présentation un petit peu plus précise sur les liens entre l'étude française et l'étude canadienne. Voilà, peut-être 20 minutes, puis on prendra une série de questions pour essayer de tenir le timing et finir à moins le quart pour aller déjeuner. Voilà, merci.
Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier la DIAL de m'avoir invité, Pascal, de m'avoir invité à participer à cette journée qui est, dont je me sens vraiment privilégié de pouvoir, à laquelle je me sens vraiment privilégié de pouvoir assister. Je voudrais commencer par saluer le travail remarquable que je vois qui s'est accompli dans le cadre de ce projet, à la fois sur le plan de l'intervention et aussi sur le plan de la recherche. Et je trouve que le travail est d'autant plus remarquable que, et dans le cadre de l'intervention et dans le cadre de la recherche, le contexte français ne rendait pas évident la réalisation d'un projet de cette nature. L'introduction de la notion de rétablissement dans le projet français était beaucoup plus révolutionnaire que dans le contexte canadien où nous étions déjà assez familiers avec à la fois l'idée et la pratique du rétablissement, quoi qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Et sur le plan de la recherche, l'idée d'introduire un devis expérimental très riche avec l'ajout de composantes qualitatives dans le domaine des services de santé mentale et de ce que je comprends vraiment novateur, alors que c'est quelque chose auquel on est assez habitué au Canada. Alors, je voudrais commencer par des remerciements parce que le projet canadien était très grand. Et ce que je vais faire, en fait, c'est passer rapidement, parce que j'ai moins de temps, sur les grandes lignes de l'étude canadienne, de ses résultats et de ses effets. Et je vais souligner au passage certaines différences et peut-être certaines explications de différences entre nos résultats et ceux qui ont été décrits ce matin. Alors, l'étude canadienne était de très grande envergure. On a bénéficié d'un financement extraordinairement généreux avec 110 millions de dollars. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est, oui. Je veux souligner les contributions de la Commission de la santé mentale du Canada, plusieurs personnes qui ont dirigé le projet au niveau national. Paula Goering, dont je vais vous montrer la photo dans un instant, je crois que Pauline l'avait montré aussi, qui était responsable de la recherche au niveau national. Et nous avions beaucoup de chercheurs distribués dans chacune des villes, tandis qu'ici, la recherche était vraiment concentrée à Marseille. Dans notre cas, il y avait une équipe nationale et des équipes à chacun des sites. Et évidemment, je remercie les équipes d'intervention et les participants qui ont permis que l'étude se réalise. Quelques photos surtout de gens de la recherche, un mélange d'enquêteurs, de chercheurs, de pairs dans cette photo. Dans cette photo-ci, c'est plus les coordonnateurs de sites. Nous avions des coordonnateurs de sites, ainsi que des chercheurs principaux de différentes villes. Et je souligne en particulier la présence de Paula, qui est au centre, dans la première rangée. Paula Goering est malheureusement décédée il y a un an. Elle luttait contre le cancer. Elle a été une leader de la recherche vraiment hors pair. Et le succès de la recherche canadienne lui doit énormément, à mon avis. Et à sa gauche, on voit Carol Adair, qui est la chercheure sur l'équipe nationale qui a le plus fait pour définir les instruments que nous allions utiliser dans la recherche et dont plusieurs ont été repris dans l'étude canadienne. Alors, prélude au projet chez soi, en 2006, nous avions un rapport du Sénat canadien qui soulignait les failles du système de santé mentale au Canada, en particulier la fragmentation des services, et qui recommandait l'établissement d'une commission de la santé mentale du Canada qui pourrait, entre autres, créer une politique nationale. Puis en 2007, cette commission a été établie. Il y a eu un événement déclencheur que je vais vous montrer dans un instant. Puis en début 2008, le projet a été financé. L'événement déclencheur était le fait que les Olympiques d'hiver allaient se dérouler à Vancouver en 2010. Et un fonctionnaire fédéral, anticipant que les yeux du monde seraient braqués pour Vancouver, où il y a une problématique d'itinérance particulièrement visible et perturbante, serait donc braqué sur cette réalité. Donc, il a contacté la Commission de la santé mentale du Canada pour demander est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour s'adresser à ce problème d'ici aux Olympiques. Il s'en est ensuivi donc ce projet, qui s'est déroulé sur 5 sites, d'est à ouest. C'est la façon qu'on fait les choses au Canada, pour représenter toutes les régions. Donc, Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montréal et Moncton. Alors, quelques membres de l'équipe chez soi, ça c'est une équipe de soutien à l'intensité variable. Sonia Côté, la coordonnatrice de site, on la voit de dos avec ses cheveux frisés. Ça, c'était la psychiatre de l'équipe de suivi intensif à Montréal, de l'équipe ACT à Montréal. Contrairement à ce qui s'est passé en France, dans notre cas, les équipes de suivi intensif, les psychiatres donnaient les services de façon assez systématique. Alors, de ce que je comprends ici, souvent, il y avait un certain temps pendant lequel les gens continuaient de recevoir des services de leur psychiatre habituel. Voilà une des propriétaires qui a participé au projet à Montréal. Alors, le déroulement du projet, donc, comme cela a déjà été souligné, notre projet avait débuté auparavant. Les premiers participants ont été recrutés en octobre 2009. Le recrutement s'est terminé en juin 2011 et le suivi en mars 2013. Durant toute cette période, les équipes cliniques et de logement étaient au travail. Notre étude, étant donné qu'on avait un si gros budget et 5 sites, nous avions un échantillon nettement plus grand, environ 2150. Et ce qui était différent de la situation française, c'est que nous avions à la fois une expérimentation sur les gens que nous appelions à besoins élevés et qui ressemblait à peu près aux gens que vous avez inclus dans l'étude française. À une différence importante près, quand on va venir aux résultats économiques, c'est que nous ne privilégions pas nécessairement les gens qui avaient des hospitalisations d'urgence dans la dernière année. Nous avions des gens qui étaient complètement en marge du réseau de services initialement et donc qui ne coûtait pas très cher au départ. Et nous avions aussi encore plus de gens avec des besoins modérés qui étaient aussi itinérants, mais qui n'avaient pas des problèmes de santé mentale ou de fonctionnement aussi graves. Voilà un exemple d'un participant qui vient d'être logé, un autre qui a été envoyé au groupe témoin. Alors, il y a différentes façons de présenter les résultats sur l'efficacité en termes de logement stable. J'ai bien aimé les graphiques que Dr. Hauquier nous a montrés. Une des façons que nous avons, c'est juste de regarder les gens qui étaient en logement complètement stable durant les derniers 6 mois de l'étude. Et on voit que c'est quand même nettement plus dans le groupe HF, dans le groupe logement d'abord. Mais ce n'est pas 100% non plus. Sur toutes les autres variables, essentiellement ce qu'on a trouvé, ça recoupe assez sensiblement les résultats en France, c'est-à-dire qu'on voit une amélioration sur le fonctionnement et sur la qualité de vie de façon assez systématique quand on combine les données des sites et quand on regarde site par site, avec une certaine diminution vers la deuxième année. Par contre, sur les autres mesures, y compris celle du rétablissement, on voit une amélioration dans les deux groupes, mais on ne voit pas de différence significative entre les groupes. Donc, ces résultats ont été publiés. Un autre résultat que nous avons trouvé, qui n'est pas, en fait, statistiquement pas super fort, mais on voit quand même une relation entre fidélité au modèle, qu'on a mesuré à 2 reprises pour chaque équipe, de façon très rigoureuse d'ailleurs, et stabilité résidentielle, qualité de vie et fonctionnement. Donc, si on se rapproche plus du modèle, on a de meilleurs résultats. Ensuite, nous avons également fait une analyse qualitative. Nous l'avons faite, je dois dire, très différemment de celle qui a été faite en France. Et j'ai été vraiment épaté de voir les résultats que Pauline nous a présentés, la richesse des informations qui s'en dégageaient, qui répondaient en fait à des questions autres que celles que nous avions posées. Nous intéressons beaucoup à simplement la trajectoire dans les différents domaines de vie des participants. Et globalement, ce que nous avons vu, c'est que les gens dans le logement d'abord tendaient à avoir des trajectoires de vie plus positives. Et quand on lit les transcriptions des entrevues, de ces entrevues narratives, c'est là qu'on voit vraiment à quel point l'intervention a vraiment influencé les gens de façon positive en général, avec quelques exceptions sur lesquelles on pourra peut-être revenir durant les questions. J'ai été très touché par le film et ce que j'entendais des participants dans le film, à part l'accent, ressemblait beaucoup à ce qu'on aurait pu entendre des participants québécois. Sur le plan économique, ce que nous avons trouvé, c'est que nous n'avons pas eu le même résultat qu'en France. Vous avez trouvé que les coûts évités dépassaient le coût de l'intervention. Dans notre cas, pour les gens à besoins élevés, les coûts évités équivalent presque à l'intervention en moyenne, quoiqu'il y a des différences assez marquées entre les sites. Et pour les gens à besoins modérés, les coûts évités sont à peu près le tiers du coût de l'intervention, qui est moins cher pour les besoins modérés. À tous les sites, on voit que les coûts évités sont plus grands pour les gens à besoins élevés que pour les gens à besoins modérés. Ça, c'est une constante. Et je crois que mon hypothèse, c'est que la raison pour laquelle nos résultats sont moins attirants pour les décideurs que les résultats français, c'est que nous n'avions pas focalisé sur les gens qui avaient, dans l'année précédant l'inclusion, 2 hospitalisations d'urgence. Quand les gens sont dans ce stade assez de crise, ils utilisent beaucoup de services, c'est plus facile de réaliser une réduction avec des services de type suivi intensif. Ça, c'est quelque chose qui est très, très bien documenté dans la littérature. Bon, alors maintenant, je vais parler un peu de ce qui est arrivé au programme depuis. Il y a eu une pérennisation partielle des sites expérimentaux. À Moncton, la seule équipe qui avait été mise en place, en fait, a changé de vocation. Ce n'est plus une équipe pour personnes itinérantes. Elle s'adresse à des gens autant en besoin élevé que modéré. C'est Flexible Assertive Community Treatment. C'est le modèle hollandais qui combine les deux modalités. À Montréal, Une équipe a été pérennisée, c'est celle de Diogène, de notre organisme communautaire, ce que vous appelez ici une association. Et en fait, cet organisme qui a survécu malgré toutes les attaques du gouvernement, en fait, elle sert maintenant de leader dans une communauté de pratique entre les nouvelles équipes qui sont émergées. Ça, je vais vous en parler dans un instant. À Toronto, 3 équipes sur 3 ont été pérennisées. Ils ont obtenu un financement pour un suivi à vraiment long terme des participants. À Winnipeg, toutes les équipes ont également été pérennisées, mais beaucoup plus tard, l'annonce est venue beaucoup plus tard que pour Toronto, et elles sont moins fidèles que celles de Toronto. Et à Vancouver, seulement une équipe sur 2 a été pérennisée. Un autre élément dans le contexte canadien, nous avons quelque chose qui s'appelle la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, qui est un programme fédéral qui finance des interventions contre l'itinérance dans 60 communautés. Suite aux résultats intérimaires de notre projet, et notamment les résultats économiques, il a été décidé de réallouer 65% des fonds du programme, qui sont plus de 100 millions par année, mais pour les 10 villes les plus importantes, vers des programmes de type logement d'abord. Les porteurs sont des associations, et c'est seulement pour les personnes à besoins modérés, parce qu'au Canada, contrairement à la France, la santé et les services sociaux sont de responsabilité provinciale. Alors, il y a une tension constante entre le niveau fédéral et le niveau provincial au niveau de comment est-ce que la santé va être gérée. Et le gouvernement fédéral se sentait très mal à l'aise d'imposer des équipes de suivi intensif avec psychiatres qui sont plus médicales que celles pour les besoins modérés aux provinces. Donc, c'est un vide dans plusieurs provinces. Voilà. Ensuite, expansion dans les villes du projet À Trompe chez soi. À Moncton, il n'y en a pas. Pas assez d'argent. Pas de supplément au loyer. À Montréal, on a environ 200 places de plus qui étaient prévues dans le projet chez soi, donc des progrès. Et encore une fois, Jessica Soto, la coordonnatrice du programme qui s'appelle maintenant Toi d'abord, c'est un jeu de mots, T-O-I-T d'abord, mais c'est aussi rétablissement. Avec 2 programmes pour autochtones. Toronto, il y a eu peu ou pas d'expansion. Ce qu'on dit dans un article qui vient de paraître, c'est que ce qui s'est passé à Toronto, c'est que la capacité des équipes cliniques dépasse de loin le nombre de suppléments au loyer. Donc, dans bien des cas, ils offrent aux gens juste un suivi sans supplément au loyer. À Winnipeg, il y a une expansion de 3 à 8 programmes. Et à Vancouver, un peu d'expansion selon les acteurs, ce n'est pas très clair. Il semble y en avoir une, mais assez limitée. Une autre chose dans le contexte canadien, là, je vais finir assez rapidement. On a quelque chose qui s'appelle l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, qui est un joueur très important sur le plan politique, mais qui n'existe que depuis environ 5 ou 6 ans. Ils ont mené une campagne pour que 20 000 logements abordables soient construits. Ils organisent une conférence CAEH, c'est la conférence annuelle pour les intervenants, utilisateurs, scientifiques sur l'itinérance qui rassemble chaque année environ 500 à 600 personnes. Et ils ont aussi, vous voyez le troisième logo à droite en bas, ils ont une fonction d'assistance technique au site pour les aider à être plus fidèles au modèle. Ensuite, à Montréal, un peu sur Montréal, nous avons quelque chose qui s'appelle le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, qui a été établi après l'échec du projet chez soi, le financement n'avait pas été reconduit par le gouvernement provincial après mars 2013. Donc, cette perception de manque de leadership de la part de l'agence à Montréal, l'agence régionale de santé, à mener des porteurs locaux, à décider, bon, on va faire quelque chose, on va fonder ce mouvement, qui était aussi inspiré par la présence de l'Alliance canadienne et du mouvement pour mettre fin à l'itinérance. Quelques nouvelles récentes. Dans le budget fédéral déposé en mars 2017, il y a une expansion de 50% dans le budget de la SPLI. Il va y avoir un peu de lobbying pour savoir comment cet argent va être dépensé, mais j'ai confiance qu'avec le poids politique de l'Alliance canadienne, on va garder beaucoup de place pour le logement d'abord. Il y aura un comité d'experts pour guider comment l'argent sera dépensé. Et dans le budget provincial, qui a également été déposé le mois dernier, malgré toute l'opposition que je n'ai pas détaillée, mais on a fait face à énormément d'opposition au Québec, à la fois des associations qui sont en fait très conservatrices et du gouvernement provincial qui voyait d'un très mauvais œil, l'ingérence fédérale dans son domaine. Malgré cela, il y a eu un changement de perception par le gouvernement provincial et un financement additionnel de 7 millions de dollars est prévu pour l'expansion de l'approche logement d'abord.
Je sais pas, de temps en temps, ça fait ça.
Pardon? Je crois que j'ai terminé, mais le
j'ai
bouton d'avance.
Voilà, bon.
Ah, voilà. Dissémination non planifiée, c'est plus flou dans notre cas. L'idée de rétablissement était déjà là. Il y a quand même eu un renforcement de l'idée que les utilisateurs de services devraient participer à la fois comme père aidant dans les services. C'est moins développé au Canada, je dirais, qu'aux États-Unis, mais on a un peu d'avance par rapport à la France, je crois. Mais aussi renforcement de l'idée que les pères devraient participer à la recherche même du début à la fin. Alors, mes conclusions essentielles sont que l'approche s'est avérée dans le contexte canadien réalisable, efficace et aussi rentable, même si elle ne couvre pas ses frais. Mais je fais une parenthèse ici. On ne peut pas s'attendre, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'une intervention de ce genre couvre ses frais. On ne s'attend pas à ce que le traitement pour le cancer couvre ses frais. L'État est prêt à dépenser pour que les gens aillent mieux. On le fait en milliards et milliards et milliards d'euros ou de dollars. Donc, pourquoi pas dans le contexte des personnes en situation d'itinérance. On a aussi ce résultat qu'une plus grande fidélité au modèle est associée à de meilleurs résultats, d'où l'importance de soutenir la fidélité. Et c'est quelque chose, c'est un peu un message que je veux marteler un peu. C'est l'importance, à mesure que vous pérennisez le projet en l'installant dans différentes villes, de vous assurer de mettre en place un soutien technique aux équipes, une validation de la fidélité et des rétroactions aux équipes pour s'assurer qu'ils apprennent comment faire le travail correctement. Autrement, les résultats seront moins bons. Et malgré les difficultés, on est en voie d'expansion. Alors, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Éric, d'avoir accepté de faire cette présentation ici. Je voudrais aussi juste témoigner qu'au démarrage du programme français, je suis allée à Montréal. J'ai rencontré l'équipe de Montréal et j'avais aussi rencontré Paula Göring, qui avait été une grande aide pour le programme français. Et c'est aussi dans cette journée, je voulais aussi lui rendre hommage. En tout cas, merci.
Oui.
Alors, donc, les questions...